Les conférences du Collège de France.
Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreuses, si nombreux pour cette conférence du professeur Masanori Tsukamoto, donc invité sur ma proposition par l'Assemblée des professeurs, donc pour donner une conférence ici sur les recherches sur le rêve chez Valéry, Proust et Mioué. Mioué, j'ai entendu dire que les gens ne connaissent pas, mais je pense que Masanori Tsukamoto va très bien vous expliquer qui est ce Mioué. Alors, Masanori Tsukamoto, il y aurait beaucoup de titres pour lesquels il est susceptible et digne d'être invité pour donner une conférence ici au Collège de France. Et le premier titre, je dois le dire, le plus intime, c'est que c'est le japonais que je connais depuis le plus longtemps dans ma vie. Hein, donc, ça compte tout de même. Hein, je crois que je le connais quand nous sommes rencontrés à l'école normale supérieure lorsque j'avais 22 ans, en fait. Donc, ça fait un bail, hein, maintenant. Et donc voilà, et nous n'avons pas cessé de nous voir parce que, alors évidemment le fait de connaître Masanori Tsukamoto depuis longtemps n'est pas un titre malgré tout suffisant pour parler au Collège de France, mais en fait le professeur Tsukamoto, qui est professeur à l'université de Tokyo, est l'un des chefs de file des études françaises au Japon et aussi l'un des spécialistes de Paul Valéry les plus reconnus dans le monde. Et c'est à ce titre que nous n'avons jamais perdu le contact, puisque j'ai longuement travaillé sur Valéry et Masanori Tsukamoto également. Mais Masanori Tsukamoto est donc un immense passeur de la littérature française au Japon, traducteur. Il a traduit Maurice Merleau-Ponty, il a traduit Roland Barthes, il a traduit en japonais le cours de Roland Barthes sur le neutre, donné au Collège de France en 1977-1978. Il a traduit Patrick Chamoiseau. Il a traduit Valéry, évidemment, il a traduit Édouard Glissant, il a traduit la correspondance entre André Gide, Pierre-Louis et Paul Valéry. Mais Masanori Tsukamoto est également l'auteur de livres importants. Les premières recherches de Masanori Tsukamoto portaient, ben justement, nous y sommes, sur le rêve. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu, depuis longtemps, il a travaillé sur le rêve chez Valéry. Et l'un de ses derniers livres, paru en japonais, qui peut-être à l'occasion de cette conférence paraîtra en français, hein, qui sait, s'intitule, alors je vais pas vous le dire en japonais, même si je pourrais le prononcer, mais bon, mais en traduction française s'intitule Le rêve à l'état éveillé, introduction à la littérature française du XXe siècle. Hein, et l'idée donc c'est de voir le rêve comme étant l'une de ces figures ou de ces formes constitutives de ce qu'a été la littérature française au XXe siècle. Et du reste, c'est l'une des raisons pour lesquelles, je le dirais, Masanori Tsukamoto se trouve ici en France aujourd'hui. Et puis je sais par ailleurs, il me l'a dit, qu'il publiera très bientôt, dans les mois prochains, un nouveau livre sur la photolittérature. C'est-à-dire cette littérature qui, depuis le début du XXe siècle, s'engage et dans un engagement complet, permanent, avec la photographie. Et donc, il y aura, si c'est des études, sur Sebald, sur Annie Ernaux, sur d'autres auteurs, et même sur Tanizaki, il y a un texte littéraire avec de la photographie, peu connu, même des Japonais, de Tanizaki. Mais ça, ce sera en japonais. Nous avons la chance d'avoir donc, aujourd'hui, et même pendant quelques semaines, à Paris, le professeur Tsukamoto, et cela c'est à l'initiative de l'école universitaire de recherche Translitterae, hein, qui est basée à l'université PSL, Paris Sciences et Lettres, dont le Collège de France est partenaire, mais aussi essentiellement basée à l'école normale supérieure. Et c'est cette école universitaire de recherche Translitterae qui a invité Masanori Tsukamoto pour donner un ensemble de conférences qui seront données à l'école normale supérieure. Et ça commencera demain, en vérité. J'ai même le programme que je peux vous dire brièvement. Et les conférences porteront toutes justement, parce que je pense qu'il y a un rapport avec le rêve, porteront toutes justement sur cette poétique, ce que professeur Tsukamoto appelle la poétique de l'inhumain. La poétique de l'inhumain. La première conférence du cycle après celle-ci, aura lieu donc demain 7 mars de 14h à 16h à l'École normale supérieure. Elle portera sur Mishima et la poétique de l'inhumain. Puis il y aura le 15 mai une conférence, le 15 mars, excusez-moi, une conférence sur Valéry. Le 21 mars, une conférence sur Valéry et Flaubert. Et le 28 mars, une conférence sur Valéry et Merleau-Ponty. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous regardez le site de Translitterae, hein, ça s'écrit comme ça se prononce, hein, Translitterae, et vous retrouverez exactement toutes les informations sur le cycle de conférences de Masanori Tsukamoto. Mais aujourd'hui, ce dont il va nous parler, c'est de Valéry, Proust et Mioé, recherche sur le rêve. Et donc, je cède avec beaucoup de plaisir la parole au professeur Tsukamoto. Merci de l'accueillir chaleureusement.
Bonjour à toutes et à tous. Et je remercie tout d'abord William de m'avoir donné l'occasion de parler devant cet établissement prestigieux. Je remercie également Madame Benedetta Zaccalello qui, dans le cadre du projet de Translitterae, m'a très gentiment proposé de passer un mois de stage à Paris. Les écrivains de la première moitié du XXe siècle nous convainquent que l'écriture est profondément liée au sommeil. On ne peut bien décrire la vie des hommes, écrit Proust, si on ne la fait baigner dans le sommeil où elle plonge et qui, nuit après nuit, la contourne comme une presqu'île est cernée par la mer. Proust n'était pas le seul à ressentir le besoin de dépeindre la vie humaine sous l'angle du sommeil. Son contemporain, Valéry, a également ressenti le besoin de décrire toutes les choses que l'on perçoit à partir du sommeil. Je cite, « Toutes choses doivent s'écrire à partir du sommeil, origine est zéro. Si on prend l'état zéro pour l'origine, on a le sens du véritable édifice que chaque chose est. On voit alors les fondations, la partie immergée de ce qui est. » Pourquoi les deux écrivains rattachent-ils l'écriture au sommeil? Cette question paraît d'abord absurde parce que nous n'avons pas le moyen d'exploiter pleinement le domaine du sommeil. Que peut-on savoir de ce qui se passe lorsqu'on perd la conscience? Aucun écrivain ne pourra être d'ailleurs plus éloigné de l'aspiration romantique à un monde au-delà de ce que Valéry et Proust. Ce n'est pas à cause d'une transcendance vers l'autre rive ou d'une exploration du domaine de l'inconscient que les deux écrivains sont obsédés par le lien entre l'écriture et le sommeil. La clé semble résider dans nos efforts constants pour élaborer les manières de voir. Ils ne visent pas à augmenter le nombre d'objets de leur connaissance, mais à construire des manières de voir les choses différemment par rapport à la perception ordinaire. Le sommeil et surtout le rêve parmi les différents aspects qu'implique le sommeil sont considérés chez eux comme une source essentielle pour transformer la vision ordinaire de la vie, comme le raconte le narrateur de la recherche à la recherche de temps perdu. La vie est presque toujours la même, d'où les déceptions du voyage. Il semble bien que le rêve soit fait pourtant avec la matière parfois la plus grossière de la vie, mais cette matière y est traitée, malaxée, de telle sorte qu'avec un étirement dû à ce qu'aucune des limites horaires de l'état de veille ne l'empêche de s'effiler jusqu'à des hauteurs énormes qu'on ne la reconnaît pas. Nous savons que le narrateur de Temps perdu cherche un art qui n'est pas affecté par les aspects matériels de la réalité, mais un art qui nous permet d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Le narrateur croit y arriver non seulement en regardant un élastir, en écoutant un vinteuil, mais aussi en introduisant dans l'état de veille l'essence du sommeil qui nous est profondément inconnu. Il ne s'agit pas de raconter des expériences oniriques, mais de se créer un regard qui perçoit autrement, un regard qui permet de percer le caractère purement mental de la réalité. La réalité cessera alors d'être un accident qui se déroule au gré du hasard peut devenir quelque chose de malléable qui se transforme en corrélation étroite avec les variations de l'esprit. Lorsque le narrateur du temps perdu parle de son projet de décrire la vie des hommes en l'immergeant dans le sommeil, il s'agit de savoir comment acquérir le pouvoir de décomposer la vie ordinaire afin d'en combiner autrement les matières éparses, fragmentées et accidentelles. La question que le narrateur se pose en examinant le sommeil pourrait se résumer ainsi. Comment un homme éveillé, pris dans sa perception usée et annuée du monde, peut-il percevoir le monde différemment ? Nous veillons dormant et veillant dormant, dit Montaigne. On se demande depuis longtemps quelle vision on peut avoir s'il est possible de dormir tout en conservant la conscience lucide. C'est bien le cas du Baudelaire, des paradis artificiels, du Nerval de Sylvie et d'Aurélia, du Élevé de Saint-Denis, des rêves et les moyens de les diriger. Les recherches sur le sommeil et le rêve chez Valéry et chez Proust s'inscrivent dans cette tradition, faisant valoir le sommeil comme une puissance capable de changer la vision ordinaire du monde, et non dans la tentative contemporaine visant à l'éclaircissement des pulsions inconscientes. Nous proposons ici de suivre leur descente dans le sommeil au sein de l'état de veille à travers la double piste des recherches sur le sommeil et le rêve de Valéry et de Proust. Je poursuivrai d'abord la méthode que Valéry a établie pour sa géométrie du rêve et les constatations essentielles qu'il a révélées avec cette méthode pour les comparer avec les observations de Proust. Jean-Yves Tallier demande à propos de Proust « La descente en soi que demande l'écriture est-elle analogue à la descente d'Ulysse aux enfers ou emploie-t-elle les artifices moins cruels, plus estompés de la mémoire ? » Je dirais plutôt qu'il s'agit de la descente en soi à travers l'oubli, qu'imposerait la pénétration du sommeil à l'état éveillé. Il faut bien noter que pour les deux auteurs, le sommeil n'apparaît pas seulement pendant la nuit, mais aussi en plein état éveillé. C'est une forme particulière de l'oubli qui affecte une partie de notre connaissance ordinaire et qui permet de regarder autrement la vie de tous les jours. Les deux écrivains marquent que le sommeil au sein de l'état de veille peut supprimer en partie les éléments matériaux de la vie réelle au profit d'un monde malléable plus étroitement lié aux variations de l'esprit. Mais nous verrons vers la fin de cette communication en jetant un coup d'œil sur le journal des rêves tenu par un moine japonais du XIe et XIIe siècle que la psychanalyse dans tous ses développements joue tout de même un certain rôle. Comment peut-on donc aborder la question du sommeil alors que nous n'avons essentiellement comme moyen de la recherche que la rétrospection subjective et que le sommeil profond ne permet pas à la conscience de se saisir? Il est vrai que la recherche scientifique fondée sur l'observation du dormeur n'était pas alors au niveau des études actuelles. Les efforts des savants pour rapprocher la psychologie et la physiologie et ne porteront leur fruit en matière de rêve qu'en 1953, année où Azelinsky et Kreitman découvrent le sommeil paradoxal. Mais encore récemment, il y a un auteur comme Pierre Paché qui refuse de séparer de la pratique la curiosité active et vigilante du chercheur et l'hébétude facile d'un sujet. C'est la présence de l'un dans l'autre qui me passionne, que je vis constamment. C'est que chacun a son autorité, chaque fois répété du sommeil. On n'a qu'à essayer soi-même de transformer la vision de la vie quotidienne en y introduisant l'essence du sommeil. Et si Valéry et Proust ont approfondi leurs recherches sur le sommeil jusqu'à y reconnaître un profond moteur de l'écriture, leurs observations méritent toujours d'être lues attentivement. Valéry tente de résoudre cette difficulté de sonder les ténèbres de la nuit en assimilant le rêve à une forme de conscience. C'est le premier point essentiel. Il ne tient pas le rêve pour la manifestation des pulsions inconscientes, mais pour une variation de la conscience, ou plutôt, selon sa propre expression, la conscience sur le sommeil. Du coup, le sommeil devient un domaine des activités mentales où différents modes de la conscience se déploient selon les profondeurs du sommeil. Endormissement, somnolence, demi-sommeil, insomnie, rêve, sommeil sans rêve, sursaut, demi-réveil, réveil, etc. Parmi ces différents aspects de la conscience, il importe pour Valérie de saisir l'absolument autre de l'expérience onirique. Parce que tout en étant une forme de conscience, le rêve implique quelque chose d'inapprochable pour la conscience. Une fois éveillé, on n'est plus en état de réaliser le rêve tel qu'il est. À force de réfléchir sur cette altérité radicale du rêve, Valérie arrivera à la révérer la présence du rêve et du sommeil au sein de l'état de veille. Proust signale également le paradoxe de la recherche sur le rêve. Comment, en effet, faire entrer dans le domaine de la conscience éveillée ce qui est détruit par le fait même d'être éveillé. Je lis. Il s'agit de tirer hors de l'inconscient pour le faire entrer dans le domaine de l'intelligence, mais en tâchant de lui garder sa vie, de ne pas la mutiler, de lui faire subir le moins de déperdition possible, une réalité que la seule lumière de l'intelligence suffirait à détruire, semble-t-il. Pour réussir ce travail de sauvetage, toutes les forces de l'esprit et même du corps ne sont pas de trop. C'est un peu le même genre d'effort prudent, docile, hardi, nécessaire à quelqu'un qui, dormant encore, voudrait examiner son sommeil avec l'intelligence sans que cette intervention amenât le réveil. Il faut des précautions, mais bien qu'enfermant en apparence une contradiction, ce travail n'est pas impossible. Valérie trouve également que ce travail n'est pas impossible, mais contrairement à Proust, qui tente de ramener ce qu'il y a de plus fragile dans le sommeil avec les forces attentivement employées de l'esprit et du corps, Valérie essaie d'approfondir la question du rêve en persistant dans sa constatation qu'il y a une rupture profonde entre la conscience éveillée et la conscience sous le sommeil. Cette rupture semble d'avoir abolir toute possibilité d'étude rationnelle concernant le rêve, mais c'est justement là que Valérie trouve une méthode permettant d'approfondir les connaissances sur le phénomène onirique. Le problème consiste moins dans le rêve lui-même que dans la conscience éveillée qui ne peut que défigurer, de par sa présence même, l'essentiel du rêve tel qu'il est. On pourrait essayer de préciser les conditions ou axiomes de la géométrie rêve. Le point essentiel serait de définir ceux de la veille ou encore. Une bonne théorie du rêve ne peut se tenter que sur une bonne théorie de la veille et permettant en altérant systématiquement les conditions de la veille de reconstituer quelque peu ce qu'il y a d'intéressant à désirer dans cette recherche vaine, c'est-à-dire ce en quoi le rêve diffère radicalement de la veille. Il s'agit avant tout d'éclairer les caractéristiques de la pensée éveillée, foncièrement incompatibles avec le rêve. Si on arrive à définir ses propriétés, on pourrait ensuite tenter d'en déduire celle du rêve, en précisant en quoi la conscience vigile n'est pas compatible avec la conscience pendant le sommeil. Le point essentiel est de bien définir les propriétés de la conscience éveillée. En quoi consistent donc les propriétés de la conscience éveillée ? L'impuissance même de la conscience vigile à saisir le rêve tel qu'il est montre déjà, selon Valérie, son caractère essentiel. La conscience ne fonctionne bien que dans un état où l'on peut retrouver ce qui s'est passé. Si le monde perçu ne cesse de se transformer à tel point que l'on ne peut plus retrouver le point initial de toutes les variations actuelles, on sera impliqué dans des changements sans fin de circonstances instables et fuyantes. Un fait capital de la veille, c'est le retrouver, la possibilité de revenir à un objet perçu ou pensé. Qu'est-ce la veille ? C'est de retrouver. Ce renotation est essentiel. L'état éveillé se caractérise par la capacité de retrouver ce qui s'est passé. La veille est marquée par cette propriété que l'on revient après excursion plus ou moins longue, mais bornée, à un certain type de point, soit à son sujet, soit à la perception des choses de l'instant. Le retour à un objet perçu ou pensé produit, selon Balali, dans le champ de la connaissance, une autre dimension que celle d'un spectacle immédiat, permettant d'opérer d'une manière active sur la situation donnée, en passant par la voie créée par la fonction « wu », le sujet est capable de transvoir le système de choses qui n'obéit pas forcément à l'intention du sujet. Le retour permet à la conscience éveillée d'établir l'indépendance entre le moi et le système des choses. Le rêve serait inversement défini comme l'état où on ne peut plus retrouver le point de départ. C'est un état sans retour où la conscience se déroule sans pouvoir retrouver l'objet perçu. Si on y essayait de regarder l'objet pensé ou perçu, celui-ci se transformerait au gré des variations oniriques. En cet état, on n'a qu'à poursuivre une seule variation qui défile devant nos yeux. Le rêveur, selon Valéry, ne peut soutenir le monde qui se développe autour de lui qu'en le fabriquant continuellement. Le rêveur est obligé à peine de néant à tout soutenir, tout renouveler incessamment au moyen d'une production sans arrêt. Valéry considère ainsi le rêve comme un état d'invention continuelle imposé par l'incapacité du rêveur de revenir sur ce qui s'est passé. Il parle même d'impuissance créatrice chez le rêveur. Pour le rêveur, la seule opération possible est de combiner tout ce qui apparaît dans son champ de vision. J'admettrai qu'il existe une vis formativa, une activité formative d'image, d'ailleurs le rêve y contraint. Le rêveur est inventif, mais c'est parce que le rêveur est obligé de ne pas cesser de former des images. La lecture croisée de Valéry et de Proust nous enseigne ici la propriété la plus fondamentale du phénomène onirique. Le narrateur du temps perdu nous montre clairement que c'est la défaillance de la mémoire qui soutient ce que Valéry appelle l'activité formative d'image. Le rêve est une forme de conscience frappée d'un oubli particulier. C'est ce qu'illustre la scène où le narrateur pense à Albertine qui est déjà morte à la suite d'un rêve où elle apparaît et le blesse avec une parole douteuse, sans doute déloyale. Toute la journée, je continuais à causer avec Albertine, je l'interrogeais, je lui pardonnais, je réparais l'oubli des choses que j'avais toujours voulu lui dire pendant sa vie. Et tout d'un coup, j'étais effrayé de penser qu'allait être évoqué par la mémoire à qui s'adressaient tous ces propos, aucune réalité ne correspondait plus. Qu'étaient détruites les différentes parties du visage auxquelles la poussée continue de la volonté de vivre, aujourd'hui anéantie, avait seul donné l'unité d'une personne. À travers le rêve qui subsiste après le réveil, on voit bien que ce phénomène est une forme particulière d'oubli, parce qu'elle affecte non la personne d'Albertine elle-même, mais le fait qu'elle est morte. Pour le narrateur de temps perdu, le rêve est quelque chose qui a le pouvoir de faire apparaître dans toute sa plénitude ce qui était absent. Il considère le rêve comme une sorte d'appareil visuel puissant qui lui permet de se rendre à n'importe quelle époque à volonté. Lorsqu'il se trouve à l'intérieur de l'appareil, le narrateur est transporté à son insu à une autre époque que la réalité. Dans la scène qui précède le passage cité, le narrateur se trouve à l'époque où vivait Albertine. Il sait bien qu'après le réveil, cette situation n'est plus possible, mais il n'arrive pas à supprimer de sa pensée la présence d'une morte qui était si vivante dans le rêve. Et sans doute, une fois que j'étais réveillé, cette idée d'une morte qui continue à vivre aurait dû me devenir aussi impossible à comprendre qu'elle me l'est à l'expliquer. Mais je l'avais déjà formée tant de fois au cours de cette période passagère de folie que sont nos rêves, que j'avais fini par me familiariser avec elle. La mémoire des rêves peut devenir durable s'il se répète assez souvent. Ce passage nous fait penser qu'il y a bien des moments où le rêve se penche dans la vie, C'est le moment où on entre par oubli partiel dans une autre période de la vie ou dans une vie que l'on n'a jamais vécue mais rendue possible par la défaillance quelconque de la mémoire. La conscience éveillée implique un état de germe, les formations étranges du phénomène onirique, seulement celles-ci sont interrompues rapidement à l'état de veille par la fonction roue selon Valéry. À chaque instant, nous faisons un rêve, ou plutôt un rêve se fait du moindre coup d'œil, de la moindre sensation inattendue. Aussitôt une sorte d'invention nous parcourt, si prompte, si vaine, qu'elle se perd aussitôt née, comme une faible fusée, une onde superficielle. Valéry arrive ainsi à un point de vue qui s'oppose à son observation de l'incompatibilité du rêve et l'état éveillé. Il dit « À l'état naissant, tout est rêve. En d'autres termes, ce qui se produit dans la veille n'éveille que par sa suite. Le rêve est redéfini comme un aspect de la conscience dans sa phase productive ininterrompue, qui continue à fonctionner à l'état éveillé. » De ce point de vue, Valéry conçoit l'état éveillé comme une petite somme de petits rêves sans cesse interrompus, compensés et redessinés selon la tendance propre à la pensée rationnelle. Le travail d'amener à la conscience ce qui se passe en rêve n'est donc pas impossible. Pour Proust, c'est la défaillance de la mémoire qui soutient ce que Valéry appelle l'état naissant, état d'invention continuelle. C'est que l'oubli permet de prolonger l'état naissant. Nous venons de voir que pour le narrateur du temps perdu, le rêve a pour fonction non de ressusciter la personne morte, mais de supprimer de la pensée la constatation qu'elle est morte. Albertine est toujours vivante dans la réalité psychologique du narrateur. L'oubli qu'apporte le sommeil abolit partiellement la connaissance ordinaire d'un homme éveillé, mais ne détruit pas cette couche de l'esprit où les personnes et les lieux qui sont chers gardent toujours leur réalité. Le passage de la personne disparue nous fait penser que l'oubli qui se produit pendant le sommeil annule une partie de la logique à l'état éveillé pour dégager une autre logique plus étroitement liée à la réalité mentale où les personnes rencontrées dans la vie continuent à vivre. Nous sommes ainsi amenés à nous interroger comment l'oubli fonctionne pendant le sommeil. Y a-t-il plusieurs sortes d'oubli qui affectent différemment la mémoire ordinaire? Telles sont les questions qu'il faut poser pour bien examiner les rapports entre le sommeil et l'écriture chez Valéry et chez Proust. Retenons ici trois sortes d'oubli qui paraissent particulièrement importants en vue d'éclairer les rapports entre le sommeil et l'écriture chez les deux écrivains. L'oubli du corps, l'oubli du moi en tant que personne et l'oubli de la mort. L'oubli du corps et de la sensation corporelle ordinaire dont des états affectés par le sommeil produit différentes figures impressionnantes chez les deux écrivains. Valéry rapporte des rêves de son corps démembré ou bizarrement transformé. Il s'étonne au réveil de s'attribuer à une figure qui n'est pas la sienne. Il se réjouit de se sentir liquéfié dans l'eau tiède. Citons un exemple de ces transformations. Je tirais quelqu'un par le bras s'allongeait en résistant jusqu'à une limite au-dessus de mon effort. Au réveil, je trouve la clé, la sensation restant la même. Tout son système de représentation change. Le bras qui s'allongeait, c'était moi tirant de ma poitrine. Pourquoi la transformation du corps dans le rêve s'étend-elle à celui qui s'éveille? C'est que le corps, selon Valéry, est l'unique, le vrai, l'éternel, le complet, l'insurmontable système de référence. Pour l'homme éveillé, pourquoi l'homme à l'état éveillé peut-on retrouver l'objet perçu ou pensé? C'est que, selon Valéry, la présence du corps fonctionne en tant que système inaltérable. En s'appuyant sur la présence du corps, lequel ne se transforme pas d'un moment à l'autre, l'homme réveillé est capable de penser raisonnablement. Dans la veille, il y a un objet appelé mon corps qui inégalise par rapport à lui toutes les représentations qui est une référence constante. Dans le rêve, ce corps n'est pas constant. Il n'y en a que idée. Cependant, justement à cause de cette condition, le corps constitue une restriction permanente de la connaissance, puisque le corps intervient constamment dans la pensée en tant que système de référence, la conscience éveillée ne peut pas s'en éloigner indéfiniment. Le corps impose à la conscience éveillée une orientation spécifique. Son corps, en tant qu'il est présent, pressant, imminent, contient même la méditation la plus enfoncée dans une certaine relation ou coordination avec lui-même. Le corps n'est pas seulement un principe fondateur de la connaissance éveillée, mais il en est aussi un principe restrictif. Il oblige la conscience éveillée à exclure de sa production toutes les combinaisons qui sont incompatibles avec la vérification totale corporelle. Le sommeil et le rêve, en tant qu'oubli du corps comme référence, permet à la conscience de procéder à une combinatoire impensable pendant la veille. Au début du sommeil, le corps est, pour ainsi dire, liquéfié, ne fonctionne plus en tant que système de référence. Le corps devenu idée ne peut plus supporter le même mode de connaissance que celui de la vie éveillée. Cet oubli du corps, comme fondement de la pensée éveillée, ouvre, selon Valéry, l'espace de la combinatoire générale où tout ce qui apparaît dans le champ de la connaissance peut se combiner différemment qu'à l'état éveillé. La liquéfaction du corps permet ainsi une écriture qui n'est plus contrainte par la connaissance figée de l'homme éveillé. Nous pourrons citer beaucoup de passages où Valéry décrit la métamorphose d'un homme à travers la transformation de la sensation corporelle, des passages du Palinos, de l'âme et la danse, de Doga danse des sangs. Je me limiterai à en citer un seul exemple tiré de Dialogue de l'Havre, où Lucrèce parle de son sentiment d'être parfois un arbre. Je voudrais te parler du sentiment que j'ai parfois d'être moi-même une plante. Une plante qui pense mais ne distingue pas ses puissances diverses, sa forme, de ses forces et son pot de son lieu. Je me sens vivant l'entreprise inouïe du type de la plante, envahissant l'espace, improvisant, un rêve de ramure, plongeant en pleine fange et s'enivrant des sels de la terre, tandis que dans les livres, elle ouvre par degrés aux largesses du ciel des milliers vers de lèvres. Autant elle s'enfonce, autant s'élève-t-elle. Elle enchaîne l'informe, elle attaque le vide. Elle lutte pour tout changer en elle-même. C'est là son idée. C'est en quelque sorte un rêve éveillé dans la mesure où la sensation du corps subit une transformation inhumaine. Nous avons la capacité, ou selon la terminologie de Valéry, l'implex de devenir un arbre. Pour dégager cette puissance qui reste le plus souvent virtuelle, il faut que le sommeil s'immisce dans l'écriture et apporte un certain degré d'oubli. Le sommeil, en supprimant le cadre ordinaire de la vision, ne montre que la chose aurait pu être autrement. Un homme éveillé ne pensera jamais que le corps humain aurait pu être un arbre, c'est le dessin de Valéry. Il serait inutile de dire que dans le roman de Proust, nous trouvons des descriptions de différents états de corps dotés de la faculté de se métamorphoser au gré des variations physiques et psychiques. L'exemple typique est la description d'Albertine au moment où elle s'endort. En fermant les yeux, en perdant la conscience, Albertine avait dépouillé, l'un après l'autre, ces différents caractères d'humanité qui m'avaient déçu depuis le jour où j'avais fait sa connaissance. Elle n'était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux, des arbres, vie plus différente de la mienne, plus étrange et qui cependant m'appartenait davantage. en s'endormant, on perd son caractère humain et on se rapproche de la vie inconsciente des végétaux, des arbres. Ce point de vue n'est pas limité au passage, au seul passage où les personnages tombent dans le sommeil. Lorsque le narrateur regarde les aubépines, n'a-t-il pas essayé de mimer au fond de lui le geste de leur efflorescence ? Ou bien, au début de Sodome et Gomorrhe 1, Charlius et Jupien ne se transforment-ils pas en bourdon et en orchidée ? Et le narrateur ajoute à cette scène, un homme, si on l'examine pendant quelques minutes, semble successivement un homme oiseau ou un homme insecte, etc. Ces végétaux ou animaux, présents virtuellement dans l'homme, mais voilés pendant la veille, se manifestent en filigrane, en contact avec un regard attentif doté en même temps d'une certaine valeur du sommeil. On peut penser que de ce point de vue que la grand-mère du narrateur a ce regard parce qu'elle devine sous l'apparence d'un garçon robuste de la fille de Vinteuil, une jeune fille douce, délicate, presque timide. Quand elle venait de prononcer une parole, elle l'entendait avec l'esprit de ceux à qui elle l'avait dite, s'alarmait des malentendus possibles et on voyait s'éclairer, se découper, comme par transparence, sur la figure au masque du bon diable, les traits plus fins d'une jeune fille éplorée. Il ne s'agit pas d'un rêve à l'état éveillé, mais nous voyons bien que le regard de la grand-mère, qui voit par transparence, participe de l'oubli qu'apporte le sommeil, dans la mesure où il supprime les connaissances de la surface. Ce qui apparaît en filigrane déclenche dans le roman de Proust un regard à la fois vigilant et ensommeillé. Ce regard est non seulement extrêmement attentif, mais aussi volontairement oublié parce que la défaillance de la mémoire est nécessaire jusqu'à un certain point pour arriver à l'essence de l'homme, malléable, contradictoirement de l'apparence, capable d'accomplir des métamorphoses à un sexe différent, à une aubépine ou à un bourdon. Un deuxième oubli et qui me saute aux yeux dans les recherches sur le sommeil et le rêve chez Valérie Proust, c'est celui de moi en tant que personne. Le narrateur du temps perdu dit d'un réveil après le sommeil de plomb, où il est devenu un simple bonhomme de plomb. On n'est plus personne. Comment alors, cherchant sa pensée, sa personnalité, comme on cherche un objet perdu, finit-on par retrouver son propre moi plutôt que tout autre? Pourquoi, quand on se remet à penser, n'est-ce pas alors une autre personnalité que l'intérieur qui s'incarne en nous? Le sommeil profond peut provoquer une suppression partielle de la mémoire de celui qu'on est en tant que personnalité. Cette défaillance du moi, selon Valéry, ne se produit pas seulement au réveil, mais aussi à n'importe quel moment. Il y a un instant, un temps, pendant lequel je ne sais pas qui je suis, mais pendant ce temps, quelque chose a besoin d'être quelqu'un, comme ce même système a besoin d'éternuer ou de pisser pendant un intervalle. C'est surtout lorsqu'on est surpris que se produit la défaillance de moi personnelle. L'homme surpris, brusquement éveillé, pendant une certaine durée, atteint celui qu'il est. Tout le rêve est la recherche à l'aventure de celui qu'on est, et même sans savoir qu'on le cherche, car celui qu'on est ne fait pas partie du rêve. Il n'y aurait pas de rêve si nous y étions qui nous sommes. Le moi, en tant que personne, est une formation qui nécessite un temps d'élaboration, et la matière, la manière de le former change selon les états de la conscience. L'homme éveillé fouille dans la mémoire celui qu'on est. Avec le corps qui fonctionne comme système de référence, il retrouvera rapidement le moi personnel doté d'une cohérence chronologique, morale et corporelle. Mais l'homme ensommeillé doit chercher celui qu'on est en poursuivant au hasard l'aventure qui se déroule devant lui. Cette poursuite se fait, selon Valéry, et dans une dépendance particulière de regard et de l'objet regardé. Valéry définit l'état éveillé par l'indépendance de l'objet vu et du sujet percevant. Le rêve se caractérise inversement par une dépendance singulière du moi et du système de choses. Dans cet espace de fusion, l'intention de regard produirait ce qui est vu et ce dernier agirait et réagirait sur la vision pour inventer un moi qui s'y adapte. Le moi y participe profondément à la création d'un espace en train de se former. Rêver, c'est entrer dans un espace où la pensée prend immédiatement une figure matérielle, donnant le sentiment d'existence. Le moi y est inséparable des êtres, des choses, des événements en train de se faire. Michel Foucault n'a pas dit autre chose sur le moi du rêve dans la préface du rêve au rêve et l'existence de Vince Wenger. Le sujet du rêve est la première personne onirique, c'est le rêve lui-même, c'est le rêve tout entier. Dans le rêve, tout dis-je, même les objets et les bêtes, même l'espace vide, même les choses lointaines et étranges qui en peuplent la fantasmagorie. Le sujet en rêve n'est pas individuel, mais en train de se faire dans des circonstances, dans des correspondances profondes avec les choses qui l'environnent. Le moi à l'état éveillé est, pour le narrateur du temps perdu, le contraire même de ce moi profond. Pour lui, le moi, notre moi fragile, n'est qu'une sorte de limite imposée à la perception. Il ne peut avoir qu'une vision incertaine, inadéquate et biaisée. Le narrateur est profondément déçu par le fait que le monde ne peut être vécu qu'à travers un moi aussi incomplet, qui est le seul lieu habitable, l'unique mode de réalisation. Le moi en état de veille est incapable de retenir ce qui vibre aux extrêmes pointes de la sensibilité. Le ressentiment, l'authentissement, des choses comme on l'entrevoit dans le rêve. Et ne relâchons, car l'existence n'a guère d'intérêt que dans les journées où la poussière des réalités est mêlée de sable magique, où quelque vulgaire incident de la vie devient un ressort romanesque. Tout un promontoire du rêve inaccessible surgit alors de l'éclairage de songe et entre dans notre vie où, comme le dormeur éveillé, nous voyons les personnes dont nous avions si ardemment rêvé que nous avions cru que nous ne les verrons jamais qu'en rêve. La manière de voir que les deux écrivains élaborent en réfléchissant sur la relation entre le sommeil et l'écriture se rattache ainsi à la question suivante. Comment peut-on introduire l'éclairage du songe dans l'état éveillé? Alors que le fait même de revenir ce qui se passe détruit l'essentiel du phénomène onirique. Comment peut-on devenir le dormeur éveillé? Pour que tout un promontoire du monde inaccessible surgisse, il est bien évident qu'il faut quitter notre moi fragile. Valéry marque que le passage du moi personnel à une subjectivité plus profonde du rêve est possible dans ce qu'il appelle l'état poétique. L'analogie essentielle que Valéry trouve entre l'ève et l'état poétique consiste dans la disposition mentale à concevoir un monde fermé où toutes choses paraissent et se modifient par les seules variations de notre sensibilité profonde. Et en cet état, on a l'impression d'assister à la naissance d'un univers en train de se former. Il caractérise cet état par la sensation d'univers dont il développe ainsi les propriétés principales. J'ai dit sensation d'univers. J'ai voulu dire que l'état ou l'émotion poétique me semble consister dans une perception naissante, dans une tendance à percevoir un monde ou système complet de rapports dans lequel les êtres, les choses, les événements et les actes, s'ils ressemblent chacun à chacun à ceux qui peuplent et composent le monde sensible, le monde immédiat duquel ils sont empruntés, sont d'autre part, dans une relation indéfinissable mais merveilleusement juste avec les modes et les lois de notre sensibilité générale. L'état poétique est, en quelque sorte, le rêve à l'état éveillé dans lequel on perçoit le monde dans son état naissant. Les objets et les êtres conçus changent alors de valeur, s'associant autrement que dans la vie ordinaire, raison de l'un par rapport à l'autre. On voit alors le monde comme le dormeur éveillé. Il est assez étonnant de trouver chez Valéry cette tendance à la fusion du moi avec les variations du monde. Pour Valéry, la conscience signifie avant tout un mouvement de négation qui va jusqu'au refus d'être quoi que ce soit. Mais lorsqu'il essaie d'introduire les valeurs du sommeil dans l'écriture, il lui arrive d'insister sur l'importance d'une perception naissante où la conscience se livre aux forces formatives du rêve. Voilà, enfin, Muet. Un troisième oubli aux confins du sommeil est celui de la mort. Mais avant d'aborder cette question, je propose ici de faire un petit détour parce qu'il est maintenant clair que pour continuer cette descente aux confins du sommeil, il ne suffit plus d'examiner les recherches de Valéry et de Proust par le point de vue fonctionnel. Il faut introduire une autre dimension, dimension existentielle, comme Foucault l'a mise en question, en empruntant le titre de Vince Wenger, Le rêve et l'existence. Le sommeil et le rêve nous dévoilent une existence qui est bien la nôtre, mais se déploie sous une autre forme. Muet me paraît un des auteurs idéaux pour examiner sur ce point, parce que pour lui, avoir la foi religieuse et vivre le rêve signifie la même chose. Muet est un moine bouddhiste japonais de l'époque de Kamakura, dont le journal des rêves est très lu au Japon encore aujourd'hui. On peut acquérir facilement un livre de poche, son journal des rêves et sa biographie qui contient les récits de rêves que Muet a fait dès l'âge de 9 ans. On trouve aussi une traduction en japonais moderne dans une édition savante, mais c'est surtout à travers Hayao Kawai, l'étude de Hayao Kawai, et parmi de nombreuses études publiées actuellement, Muet, vivre les rêves, que l'on a pu prendre connaissance des écrits du moine. Il y a en France l'étude monumentale de Frédéric Girard, un moine de la secte Kegon à l'époque de Kamakura, Muet 1173-1232, et le journal de ses rêves. Muet tenu son journal de rêves depuis ses 19 ans jusqu'à ses derniers jours. Comment a-t-il pu continuer à écrire ses rêves pendant 40 ans à l'époque où peu de gens semblaient avoir marqué l'importance du phénomène onirique dans la compréhension de la vie psychique? Frédéric Girard insiste sur la relation étroite entre le rêve et la pensée de l'école Kegon. Je citerai en introduction libre un passage célèbre du Sutra de Kegon que Muet a commenté. L'esprit, tel un peintre avide, dépend les éléments des cinq composantes de l'existence de toutes les manières possibles. Il n'existe aucun phénomène dans le monde qui ne soit pas créé par cet esprit. Comme l'esprit est Bouddha, le Bouddha l'est aussi et les êtres le sont également. L'esprit, le Bouddha et les êtres ne sont pas trois choses distinctes. Selon la croyance de l'école de Kegon, l'esprit est doué de la faculté de créer. Comme un peintre avile le monde extérieur, celui-ci est en fait comme une illusion ou un rêve. Sur la base de cette vision du monde, Muet tente d'intégrer dans son apprentissage ce qu'il a vu un rêve. Je citerai un seul exemple de ses récits écrits dans sa biographie. Enfin, il a perdu ses parents et a été confié à des proches, mais à l'âge de 9 ans, il est monté sur le mont Takao pour commencer sa formation bouddhiste. Le jour de son arrivée au monastère, il fit un rêve. Cette nuit-là, après son arrivée au monastère, il rêva que sa défunte nourrice avait été atrocement mutilée et que sa souffrance semblait énorme. Il eut particulièrement pitié de la femme, en se souvenant de sa vie pleine de péchés, et décida de devenir un moine encore meilleur, de les aider dans leur prochaine vie. Je me réfère ici à l'interprétation de Hayao Kawai. Celui-ci fait allusion à l'œuvre au noir qui, dans les traités d'alchimie, désigne la phase de séparation et de dissolution de la substance. Cette phase de séparation est représentée souvent, selon Jung, par le dénombrement du corps ou sacrifice des animaux. Hayao Kawai assimile la nourrice à la partie féminine ou maternelle de Muet, sinon Muet lui-même. Avec les éléments tels que la coupure des membres, la douleur, le sacrifice, nous pourrions interpréter ce rêve comme représentant la période de l'œuvre au noir pour Muet, qui n'a que 9 ans, mais qui s'est résolu, en réfléchissant sur ce rêve, à se débarrasser complètement de ses liens avec le monde. L'interprétation peut être hasardeuse et erronée, mais une chose est certaine, Mioé décide très tôt d'intégrer ce qu'il a vu en rêve dans son apprentissage pour acquérir l'illumination. S'il a commencé à écrire son journal de rêve à l'âge de 19 ans et n'a jamais abandonné cette pratique au cours de sa vie, c'est qu'il considère le rêve comme un processus par lequel nous atteignons un moment d'éveil plus profond, au-delà de l'opposition du quotidien et du sommeil. J'ajoute qu'il y a un arrière-plan culturel pour ce rêve. Il s'agit de Xoz, peinture des 9 stades de la décomposition d'un corps. Pour réaliser que tout est vanité, les moines bouddhistes contemplent le corps d'une belle dame en désagrégation. Philippe Burti, lorsqu'il a introduit le mot japonisme en 1872, dans l'article publié La Renaissance littéraire et artistique, a bizarrement choisi de décrire, non pas un Hokusai ou un Utamaro, mais l'histoire d'une princesse morte et d'une fleur, soit un Xoz. Pour tenter de réaliser l'éveil, Mioé a voulu dégrader son aspect physique et s'est coupé l'oreille droite. La coupure et le démembrement du corps poussent marquer dans la vie de Mioé, à la fois dans le rêve et dans la vie réelle. Nous pouvons raisonnablement penser que Mioé s'est convaincu que le rêve raconte ce qui se passe en lui, combinant certes différemment les éléments de la vie diurne avec l'oubli des lois régnant le monde physique, mais révélant ce qu'il souhaite sans qu'il ne le sache. Sans cette conviction, il n'aura pu poursuivre l'effort d'écrire ses rêves aussi longtemps, ce qui demande une énergie mentale exceptionnelle. Si on lit de ce point de vue des études sur le rêve de Valéry et de Proust, on trouve qu'ils saisissent les rêves non seulement du point de vue de la fonction, mais aussi du point de vue de la signification. Le contenu du rêve compte également dans leur récit. Prenons l'exemple d'un rêve de Valéry. J'ai rêvé d'un jardin assez semblable à celui de la Grolée. Avec surprise, je voyais au pied de chaque arbuste ou arbre des serpents courts, morts et rangés sur la terre. Je distinguais les vipères des couleuvres. Une grosse vipère, encore un peu vivante, regardait encore des choses. Je me demandais quel procédé on avait employé pour tuer tant de reptiles et pourquoi on les avait rangés en rayon et dans ce nombre extraordinaire. Le domaine de la Grolée, situé près de Bergerac, et le refuge de Catherine Pozzi, avec qui Valéry a noué un lien profond en septembre 1920. La relation se dégrade en octobre 1921, mais n'est pas complètement rompue jusqu'en 1928. Avec ce trouble affectif, les cahiers prennent au début des années 20 une tournure singulière. On y lit par exemple « On verra au jugement dernier que presque tout le monde fut assassin. » Ah bon, qu'il n'y ait pas eu d'amour, pas d'œuvre, pas de désir sans meurtre, pas de choix sans révocation d'être. Ces phrases ont partie d'un projet inachevé appelé Orphée, différent de l'Orphée mythique. L'Orphée de Valéry prononce la condamnation à mort contre la personne bien-aimée. Orphée maudit Eurydice et la boue aux divinités infernales. Le serpent noir est envoyé. On voit bien dont ces notes que Valéry s'assimile dans une certaine mesure au serpent. Ébauche d'un serpent suggère d'ailleurs que la conscience de soi est un serpent qui se mord. Qui que tu sois, ne suis-je point cette complaisance qui pointe dans ton âme lorsqu'elle sème. Nous avons vu que l'arbre fait l'objet d'une méditation profonde chez Valéry. La scène des serpents morts et mourants au pied des arbres devrait représenter le renoncement douloureux aux choses qui ont été chères. Dans la lettre à Catherine Pozzi du 24 octobre 1921, Valéry écrit plus directement « Je suis demeuré paralysé, écrasé et tout mon être frappé d'insensibilité et d'engloutissement. Ce fut comme après la mort, quand elle est donnée par la décapitation. » Comme le Mioé de 9 ans, voit dans le corps morcelé de la nourrice la nécessité de se séparer du monde des hommes, Valéry a dû sentir dans cette scène l'amour de son auteur, de son amour intense et la nécessité de se dégager de ce lieu du massacre. Balali ne fait pas de commentaires substantifs sur ce récit. Il nous a permis cependant de penser que Valéry, ce qui était vital jusqu'alors, se trouve mort et qu'il a dû sentir une sorte de catharsis qui pourrait lui permettre d'avancer. Voilà la dernière partie. Revenons pour terminer à notre descente au sommeil pendant l'état éveillé et examinons l'oubli de la mort qui s'y produit de manière extrêmement diverse. Il est frappant de constater, en lisant les récits de rêve de Valéry, l'extrême persistance du thème de la mort. Valéry se montre littéralement obsédé par la mort dans ses rapports au vécu nocturne. Il s'agit tantôt de sa propre mort, tantôt de la mort des autres. La série de l'annonce de la mort imminente commence dès 1897-99 et ne se termine qu'en 1943. Pour décrire toute une fluctuation des attitudes à l'égard de la mort imminente, il faudrait une autre communication. Mais puisque le temps presse, je suis obligé de présenter brièvement le récit qui marque la fin de cette série. Rêve extraordinaire de 18-19 août 1943. Je rêve que le professeur Duvray m'avise que ma mort est toute prochaine, peut arriver d'un moment à l'autre, ou dans peu d'heures. Je suis très étonné, car je ne me sens pas mal, et on n'est pas très ému autour de moi. Cependant, on s'avise, je pense, et 2 ou 3 cercueils sont apportés, empilés dans ma chambre, enveloppés dans du papier faux. Mais je vague à diverses choses, faire des courses, et même, je vais avec une très grosse et lourde serviette fait un cours de la poétique. Je m'arrête chez un livraire. Ici apparaît l'œil de Broglie. Et j'ai beau annoncer ma mort et dire qu'il y a des cercueils chez moi, il n'y donne pas garde plus que les autres. Je me sens excessivement bien et d'une excellente froideur d'esprit. Dans ses récits, Barelli raconte souvent ses efforts désespérés pour échapper à la menace de la mort. Mais comme on le voit dans la dernière de la série, on peut y reconnaître une autre attitude à l'égard de la mort. Il ne s'agit plus ni de peur, ni de tentative de dépassement, ni même de fascination, mais d'acceptation tranquille. Le rêveur y tente d'apprivoiser l'idée de la mort en constatant que celle-ci ne change rien au cours de la vie. Le vécu de la nuit enseigne à Valéry que la vie côtoie la mort imminente. On dirait que la mort s'y confond avec l'existence même, comme le remarque encore Michel Foucault. Au plus profond de son rêve, est ce que l'homme rencontre, c'est sa mort. Mort qui, dans sa forme la plus inauthentique, n'est que l'interruption brutale et sanglante de la vie, mais dans sa forme authentique, l'accomplissement de son existence. Quant à l'apparition de la personne morte dans le rêve, elle nous donne non seulement chez Valéry, mais aussi chez Proust, bien des matières à réfléchir. Dans son rêve réveillé sur Albertine, le narrateur du temps perdu s'étonnait que le sommeil apporte un oubli singulier de la réalité de la mort, dont l'intermittence du corps, à peine a-t-il touché le bouton de sa bottine, le narrateur aperçoit dans sa mémoire le visage de sa grand-mère, penché sur sa figure. Puis, il ressent sa vive présence, plus il est obligé de reconnaître qu'elle n'est plus dans ce monde. Et le narrateur est tourmenté par la contradiction étrange de la survivance et du néant entrecroisé en lui. Dans la réalité psychologique, elles sont toujours vivantes, mais le narrateur sait que dans la réalité physique, elles sont déjà mortes. Ce mélange de la présence et de l'absence, du savoir et de l'oubli, contribue à créer un lieu de l'écriture qui converge vers la révélation de la partie immergée de ce qui est. Valéry Duy observe que la connaissance implicite de la mort peut agir différemment sur la formation des images. L'oubli supprime momentanément de la mémoire le fait que la personne en question est morte, mais la connaissance implicite de sa mort entraîne des déformations étranges dans les images. Valéry rend compte, par exemple, d'un rêve à propos d'une musicienne morte. On l'entendait jouer son morceau préféré, mais on ne voyait que les mains de la morte sur le clavier, et pas de personne. Le plus impressionnant sur ce point est le rêve que Valéry appelle Athalie. Madame T vient de perdre sa nièce. Elle rêve que la nièce morte entre soudain dans le salon où elle prend du thé avec une amie. Avec surprise et joie, elle se lève pour l'accueillir. La dame qui était là regarde, se dresse et s'évanouit. La morte embrasse sa tante. Ensuite, elle la saisit par la taille et fait mime pour la vouloir enlever en l'air. Mais la rêveuse, le moi de ce rêve, ne se trouve saisie que par un corps qui se fluidifie, se fond, s'affaisse. À ses pieds, il n'y a aussitôt qu'une loque innommable, une rove morte, et tout ce qu'il faut pour se réveiller en pleine horreur. Jetons un coup d'œil sur le passage de la pièce de Racine où Athalie voit, dans le songe de sa mère Jézabel, pompeusement parée, et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser. Moi, je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'eau et de chair meurtrie et traînée dans la fange des lambeaux pleins de sang et des lambeaux affreux. La mort n'est pas tout à fait un processus irréversible dans l'expérience onirique. Cette idée n'est pas limitée à Valérie et à Proust. Nous pouvons la retrouver dans des œuvres lointaines comme celle de Virgile, tant ce qu'on appelle la littérature s'enracine dans le souhait de vivre avec les morts, tout en sachant que ce souhait n'est pas possible dans la réalité. Notons que Valérie est d'habitude très hostile à la valeur du récit de rêve, mais dans les cahiers où on peut compter 150 récits de rêve, il y a une série de rêves qu'on pourrait appeler la rencontre avec la personne morte. Comme Athalie le déclare, un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe, entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Quant au narrateur du temps perdu, il déclare que les morts exercent sur l'esprit une influence plus profonde que les vivants. Les morts sont non seulement toujours vivants dans la mémoire, mais incitent à vivre dans un espace-temps plein de magie soutenue par les forces formatives et les défaillances de la mémoire. C'est la dernière citation. Il agit même plus qu'un vivant parce que la véritable réalité n'est en dégagée que par l'esprit, étant l'objet d'une opération spirituelle. Nous ne connaissons vraiment que ce que nous sommes obligés de recréer par la pensée, ce que nous cache la vie de les yeux. En guise de conclusion, nous constatons qu'en poursuivant les études fonctionnelles sur le rêve chez Valérie, nous aboutissons finalement à la volonté de réaliser un réveil plus profond que le rêve. Dans l'état naissant, Valérie trouve une puissance d'invention continuelle. Proust marque que la faculté formative d'image du rêve n'est rendue possible que par l'oubli des orientations fondamentales de la connaissance. La vie, autrement disposée en cet état, par la subjectivité profonde, ne raconte ce que nous ne savons que virtuellement. Nous n'avons pu voir qu'une partie limitée de cette descente dans le sommeil au sein de la veille. Les textes de Valérie et de Proust nous incitent à continuer ce parcours encore plus. Merci beaucoup. Merci de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.